Bon jouir, c'est Agathe. Amis jouisseuses, amis jouisseurs, amis qui ne sauraient jouir, bonsoir, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes et prêts à passer les dernières minutes de votre dimanche soir en compagnie de bon jouir. Nous sommes prêts, enfin je devrais plutôt dire moi je suis prête car encore une fois je vais être seule avec vous ce soir, seule ou presque bien entendu. Alors, êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous peut-être dans un négligé du soir? Êtes-vous à poil? Êtes-vous le concombre prêt à rentrer dans le trou de balle ou avez-vous les mains sur votre volant car vous êtes en train de conduire? Peu importe votre situation, bon jouir est là pour vous faire passer un bon dimanche soir. Après 1h30 de métal de tout poil, il est l'heure de se mettre tous à poil sur Canal B.
Bonjour.
Sur Canal B. Un grand merci à Yannick, la belle voix de Métal Injection, pour ses passages de micro toujours si chaleureux. Les rockers ont du cœur, dit-on, et les métalleux ont la libido en feu. Voilà, alors j'ai mis quelques temps à la trouver, cette rime un peu pourrie, mais c'est quand même là-dessus que nous allons donc démarrer ce nouveau Bon Jouir, cette émission numéro 145. Je dis pas ça pour crâner, mais c'est quand même pas mal. Au programme ce soir, plein de nouvelles histoires à savourer. Des histoires qui ne sont pas de la main de votre maîtresse de cérémonie cette fois-ci. Et je sais, je vous vois, je vous entends, je vois les doigts levés, je vois bien que vous vous demandez pourquoi je vous partage ces textes érotiques. Pourquoi insister chaque semaine sur l'importance de la littérature érotique en particulier? Je pense que vous-même, vous serez en capacité de répondre à cette question après avoir traversé les 60 minutes qui vont suivre. Mais une piste, déjà. Notre intimité est notre plus grande liberté. En la découvrant, en apprenant à la nommer, on peut ainsi mieux la protéger, la défendre, la revendiquer. Et en partageant tout cela, on aide les autres à en faire autant. Fini les « nous ne savions pas », on ne m'en a jamais parlé, si j'avais su, ça se serait passé autrement, etc. Fini le sentiment de solitude face à soi-même avec ses questions, ses doutes, ses peurs. Fini toutes ces périodes de crise personnelle. On a maintenant des lieux ressources, des endroits, des personnes, des comptes Instagram, des réseaux sociaux ressources, et on a des livres. Car aussi, quoi de mieux peut-être afin de rester dans sa propre intimité que d'ouvrir un livre, de parcourir ses mots, ses phrases, de comprendre l'auteur ou l'autrice veut en venir et de pouvoir ainsi s'ouvrir des imaginaires et s'ouvrir des mondes. Eh bien, c'est la même chose avec la littérature érotique et peut-être que d'un point de vue éducatif et d'un point de vue de pédagogie, sexuelle, eh bien la littérature a réellement, c'est mon opinion en tout cas, absolument sa place et son rôle à jouer. Alors n'hésitez pas à aller chez votre libraire, il y a toujours un rayon érotique. N'hésitez pas à aller sur le site par exemple aussi de la Musardine, la maison d'édition spécialisée qui est à Paris. N'hésitez pas à aller farfouiller un peu sur les internets ou dans les rayons de la bibliothèque. Il n'y a pas de honte à lire du cul. Car finalement, le cul, eh bien, c'est là-dessus que vous êtes assise et assis tous les jours. Alors, de quoi pourrions-nous avoir honte, n'est-ce pas? Alors, comme mise en bouche, je vous propose de parler sensualité des aliments et sensualité de ce que l'on porte à la bouche. Le plaisir en bouche, ça vous parle? En véritable fin gourmet, Benjamin Bechler a décidé pour les prochaines émissions de nous faire voyager au cœur de la gastronomie du plaisir. Alors, bonne dégustation. C'est un extrait de Mangez-moi d'Agnès De Sarthe aux éditions Point. Oh. Oh.
Suis-je une menteuse ? Oui, car au banquier, j'ai dit que j'avais fait l'école hôtelière et un stage de 18 mois dans les cuisines du Ritz. Je lui ai montré les diplômes et les contrats que j'avais fabriqués la veille. J'ai aussi brandi un BTS de gestion, un très joli faux. J'aime vivre dangereusement. C'est ce qui m'a perdu autrefois, c'est ce qui me fait gagner à présent. Le banquier n'y a vu que du feu. Il a accordé l'emprunt. Je l'ai remercié sans trembler. La visite médicale ? Pas de problème. Mon sang, mon précieux sang est propre, tout propre, comme si je n'avais rien vécu. Suis-je une menteuse ? Non, car tout ce que je prétends savoir faire, je sais le faire. Je manie les spatules comme un jongleur ses massues. Tel le contorsionniste, j'actionne avec souplesse et indépendamment les différentes parties de mon corps. D'une main, je lis une sauce, tandis que de l'autre, je sépare les blancs des jaunes et noue des aumônières. Les adolescents aux lèvres duveteuses et au front constellé de boutons, le cheveu gras sous leur calot de marmiton, peuvent, il est vrai, maîtriser l'ambre d'un caramel à jamais moelleux. Ils vous dressent un rouget sans perdre un milligramme de chair et tricotent la crépinette comme autant de Pénélope. Mais, fourrez-les dans une cuisine avec 5 gosses qui braillent, meurent de faim, jouent dans vos pattes et doivent repartir à l'école dans la demi-heure. L'un est allergique aux produits laitiers et l'autre n'aime rien. Jetez nos braves apprentis chefs dans cette fosse au lionceau avec un frigo vide, des poils qui attachent et le désir de servir aux bambins un repas équilibré. Puis regardez-les faire. Voyez l'œuvre de ces braves garçons joufflus et regardez-les se défaire. Tout ce que leur diplôme sanctionne, mes vies me l'ont appris. La première, à l'époque lointaine où j'étais mère de famille. La deuxième, en des temps moins distants quand je gagnais mon pain dans les cuisines du cirque Santo Salto. Mon restaurant sera petit et pas cher. Je n'aime pas les chichis. Il s'appellera chez moi, car j'y dormirai aussi. Je n'ai pas assez d'argent pour payer le bail et un loyer. On y mangera toutes les recettes que j'ai inventées, celles que j'ai transformées, celles que j'ai déduites. Il n'y aura pas de musique, je suis trop émotive. Et les ampoules qui pendront du plafond seront orangées. J'ai déjà acheté un réfrigérateur géant avenue de la République. Ils m'ont promis un four et une table de cuisson bon marché. C'est pas grave si c'est rayé ? Pas grave du tout, je suis moi-même assez rayé. Le marchand ne rit pas, il ne sourit pas. Les hommes n'aiment pas que les femmes se dévaluent. Je commande également un lave-vaisselle 15 couverts, c'est leur plus petit modèle. « Ça ne suffira pas, » affirme le type. « C'est tout ce que je peux me permettre. Ça ira, les premiers temps. » Il me promet qu'il m'enverra de la clientèle. Il me promet qu'il viendra lui-même dîner un soir, sans prévenir, ce sera la surprise. Lui, il ment, c'est certain, mais ça m'est égal. Je n'aurais pas adoré cuisiner pour lui. Je cuisine avec et par amour. Comment ferais-je pour aimer mes clients ? Le luxe de la question me fait penser aux prostituées qui, elles, justement, ne l'ont pas, ce luxe. Le jour de l'ouverture, je n'ai prévenu ni mes amis ni ma famille. Je leur ai donné une fausse date. Cette fois, c'est certain, moi aussi, j'ai menti. Les courses sont faites, j'ai rédigé les menus, j'ai préparé ce qui devait l'être. Le reste, au dernier moment. Mais il n'y a pas de dernier moment. J'attends. Personne ne vient. Personne ne sait que mon restaurant existe. Je tremble de midi moins le quart à 3h30. C'est très fatigant et mon nombril, qui est l'épicentre de ces spasmes resserrés d'angoisse, est mis à rude épreuve. Lorsque quelqu'un s'arrête devant ma porte, rôde devant ma vitrine, je le chasse mentalement. Il faut qu'un restaurant soit plein ou vide. Un client unique, c'est pire que pas de client du tout. J'ai décidé d'ouvrir le midi et le soir. C'est peut-être trop pour commencer. Mais je ne vois pas comment je pourrais éviter les erreurs. Je n'ai jamais eu de restaurant. J'ignore comment on fait. Je me suis longuement posé la question de l'approvisionnement et des restes. Quelle quantité acheter, que cuire, combien de temps garder. J'ai réfléchi et j'ai trouvé. La réponse est « comme pour une grande famille ». Le poisson, cru le jour même, cuit le lendemain s'il n'a pas été mangé, puis transformé en terrine le troisième jour et en soupe le quatrième. Ainsi faisait ma grand-mère. Ainsi font la plupart des femmes et personne n'en est jamais mort. Qu'en sais-je ? On l'aurait lu dans le journal. Pour la viande, c'est pareil, sauf que je trouve le tartare un peu vulgaire. Je sers donc ma viande cuite dès l'achat, Puis elle se transforme en boulette, de tendre boulette à la coriandre et au cumin. Sourcils de céleri branche, plumes de cerfeuil, crème, citron et dés de tomates rôties à l'ail. Il n'y a pas de troisième chance pour la viande. Enfin oui, mais non. Je n'ai pas le droit de l'écrire. Pour les légumes, c'est encore plus simple. Crus, cuits, en purée, en soupe, en bouillon. Les fruits, pareil. Les produits laitiers sont braves, ils tiennent. J'ai une tendresse particulière pour eux. Ils ont toute ma confiance. Les jus, quels qu'ils soient, sont conservés à part dans des récipients en verre. Très important, le récipient en verre. Ça aussi, je le tiens de ma grand-mère.
Rappelez-vous, en juin dernier, nous recevions l'association Penser les mots, qui œuvre à la prévention des violences sexistes et sexuelles en ruralité autour de Rennes. Laura et Christelle ont un message pour vous, auditoris, auditeurs, auditeureuses, auditeresses de Bonjouir. Le samedi 25 et le dimanche 26 novembre, Penser les mots organise deux jours d'échange en lien sur les violences faites aux femmes.
Rendez-vous à Lassy, dans le sud de Rennes, samedi 25 et dimanche 26 novembre, pour deux jours d'échange autour des violences faites aux femmes. Au programme, samedi 25 novembre, atelier d'autodéfense féministe verbale, table ronde ados et adultes autour des violences et du sexisme, fresque artistique solidaire. Et dimanche 26 novembre à 17h, conférence gesticulée autour de la grossophobie. Des événements gratuits et à prix libre organisés par l'association Penser les mots. Pour vous inscrire, contactez l'asso sur Instagram et Facebook et sur l'adresse mail penserlesmots@gmail.com. penserlesmaux@gmail.com. Venez nombreuses et nombreux.
Bon, c'est bon. Vous avez bien noté ces dates-là dans votre agenda. Comment ça, vous n'avez pas d'agenda sous la main? Eh bien, notez-les justement au creux de votre main, au creux de vos synapses. En tout cas, notez bien. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas forcément concernés par ce sujet, j'avais envie de vous partager cette lecture. Je dis, être harcelé pendant des mois, c'est un jour ne plus se reconnaître. Mettre des années à admettre qu'on ne reviendra pas, celle qu'on était avant a jamais disparu. C'est avoir peur au quotidien et devenir quelqu'un d'autre. C'est la honte que quelqu'un ait cherché ton point faible, l'ait trouvé et t'ait détruite. La honte que ce soit si facile et que tout le monde s'en foute. J'ai dit, je n'avais pas les moyens de me défendre. Et j'ai conseillé aux autres, si ça vous arrive, tirez-vous tout de suite, le plus vite possible. Et je dis, la honte doit changer de côté. C'est vous qui en faites toute une histoire, pas moi. Et votre rage valide ma décision. Quand je dis, c'est insupportable, on me répond, tout allait bien jusqu'à ce que tu l'ouvres. Tout allait bien tant qu'on pouvait faire entrer mon corps de force dans cette équation du désir. Mon corps, mais pas ma parole. On a besoin de moi pour la scène, je suis la jeune première que le héros désire. Mais on ne veut pas entendre parler de ce que je ressens. Il n'y a pas que des hommes qui me disent de me taire, il y a des femmes aussi. Qui m'expliquent que ce que j'ai vécu a toujours existé et qu'elles s'en sont bien arrangées. Des siècles de femmes avant nous ont su gérer les choses avec dignité. Et moi je dis qu'elles ont mangé leur honte et mis des sourires sur leurs insomnies. J'affirme qu'à chaque fois qu'un homme impose son plaisir à une femme, il se soumet instinctivement à la loi du patriarcat et que la première règle de cette loi consiste à s'assurer que nous soyons exclus du domaine du plaisir. Et nous contraindre, dès notre plus jeune âge, fait partie de cette construction. Nous entraver est la tâche des soldats du patriarcat. Ils craignent si on nous laisse jouir tranquille pour l'ordre du monde tel qu'ils l'ont construit. Cette peur ancestrale, obscure, ça, c'est le continent noir. On a appelé la sexualité féminine le continent noir parce qu'il était crucial de ne pas mettre au jour les pratiques qui la construisent. Inceste, viol, contrainte, harcèlement. Il fallait à tout prix taire les conditions d'obstruction du désir féminin. Ce que nous dévoilons aujourd'hui n'a rien à voir avec des accidents de parcours. Nos corps sont impliqués de force dans un champ de bataille parce qu'il faut les mutiler. Le fait que nous disions non fait partie du spectacle. Nous pouvons nous identifier au taureau dans l'arène. Comme lui, nous sommes soignés, bichonnés, dans le seul objectif d'être mis à mort dans un cirque qui ne nous laisse aucune chance. Le patriarcat, c'est toujours le spectacle de la vitalité et de la puissance dominé par un agencement qui protège le meurtrier et qui permet aux foules de l'acclamer pour la beauté du rituel. Ce qui est célébré quand on viole une femme et qu'on la viole bien, c'est l'essence même du patriarcat. Mettre la puissance à genoux par des techniques imbéciles et morbides. C'est-à-dire vérifier que la violence sans puissance peut venir à bout de ce qui vous effraie. Mais aujourd'hui, j'appartiens à l'armée des filles maltraitées qui sortent du silence. Vous pouvez me retrouver, me menacer, m'insulter, ça ne changera rien. Nous soulevons la chape de plomb. La honte doit changer de côté. Quand un lycéen poste la photo d'une fille qui le suce, il faut qu'il sache qu'un jour son nom sera publié et qu'il sera humilié. Nous devons apprendre aux filles à être fières de leur fellation. Il est aberrant que des jeunes filles pensent au suicide parce qu'on a des images montrant qu'elles s'éclatent avec un mec qui leur plaît. Celui qui doit penser à se pendre est celui qui use de son privilège machiste pour les rabaisser. Les garçons des lycées devraient faire des haies d'honneur aux bonnes suceuses. Au lieu de quoi, il nous est toujours reproché de vouloir baiser avec eux. Et quand on refuse, c'est encore pire. Ma voix est un flocon de neige dans l'avalanche qui vous engloutit. Moi, je prends la parole. Je dis, je suis allée travailler chaque jour avec le ventre noué, me sentant dégoûtante d'être aussi dégoûtée et d'y aller quand même. Honteuse de ma rage et de ne pas savoir l'articuler. Tous les mecs n'étaient pas des salauds dans cette boîte, mais tous les mecs étaient complices, puisque c'était une loi non écrite. L'espace public est un lieu de chasse. Tous ne chassent pas, mais tous laissent passer le chasseur. Ces mots sont ceux du personnage Zoé Katana dans « Cher connard » de Virginie Despentes, publié chez Grasset. Parce que les violences sexistes et sexuelles commencent trop tôt, avec des riens qui s'installent, allez partager en famille ce week-end du 25 et 26 novembre à Lassy et allez faire un tour pour avoir plus de détails sur les réseaux sociaux de l'association Pensez les mots.
Bonjour.
Sur Canal B.
Je croyais que t'étais spécialement venu pour
C'était le groupe Vive la fête avec le morceau Baiser canon. Et d'ailleurs, voici une transition toute trouvée. Nous avons de nombreuses fois évoqué dans l'émission le recueil Lire et dire le désir, une sélection de textes collectés grâce au hashtag When I Was 15, suite à la censure de l'ouvrage Bien trop petit de Manu Kos, dont Benjamin Bechler nous avait régalé dans sa librairie Foutrac. Je voulais vous lire le texte de Nicolas Mathieu qui est à l'origine de la publication de ces récits. Nicolas Mathieu, cet auteur que l'on ne présente plus, que je vous invite chaleureusement à suivre sur Instagram par exemple, qui est donc l'auteur du prix Goncourt d'il y a quelques années avec leurs enfants après eux. Voici son texte. J'avais 15 ans, n'étais jamais sortie avec une fille et passé 2 semaines de juillet chez mon oncle et ma tante, en compagnie de mes parents, dans une grande maison du sud avec piscine, cascade fleurie, pergola, patio, interminable après-midi de sieste et apéro systématique. Je m'emmerdais ferme. Trouvais tout trop petit, surtout ce cloître où je n'avais pas d'amis et où les adultes m'accablaient. Pour tenir le coup, je nageais beaucoup, me tripotais en feuilletant VSD et lisais comme un tordu tout ce qui me tombait sous la main. J'étais cette bestiole avide qui dévorait aussi bien des Gallimards découvertes sur Malraux et Babylone que des polars de bourrin type Mickey Spillane et Gérard de Villiers. Putain que j'avais chaud. Et mal. Et besoin. Et comme devenir beau sous le soleil ne servait à rien. Parfois, j'étais allongée sur une chaise longue vers 15h, quand la maison reposait dans le lourd sommeil d'après la paella, la soubressade ou les encornets farcis. Et je devais trouver en urgence un coin d'ombre pour opérer rapidement ces soins urgents qui me rendaient un peu de lucidité pour 1 heure ou 2. Je me faufilais vite. Cette année-là, voici relater les aventures affolantes d'Angelina Jolie et Billy Bob Thornton. Ophélie Winter faisait du sein nu sur la plage et l'horoscope m'annonçait que j'allais rencontrer l'homme de ma vie d'ici 15 jours, 3 semaines. Tout conspirait à m'énerver en somme. Mais le pire fut cette nuit où je découvris dans les tréfonds de la bibliothèque malfamée qui meublait ma chambre un petit livre énigmatique et peu recommandable qui s'intitulait « Trois filles de leur mère ». Je n'en fais pas la publicité, ce machin-là qu'on doit à Pierre Louis, contrevenant à la plupart des lois humaines. Merveilleusement écrit, débauché au-delà du réel, savant autant qu'épouvantable, il me tint éveillé toute la nuit. Dans la chambre voisine, mes parents dormaient, les innocents. Et moi, je me tuais à la tâche sur ces pages illimitées. J'avais 15 ans. Et toute la sève de l'univers en soute. J'étais une bête, un môme puceau et pourtant effréné. Et aucun ministre de l'Intérieur ne pouvait rien à cette somptueuse clandestinité. Je m'endormis content, virtuellement déniaisé. Il n'est pas de ligue de vertu qui puisse me disputer ces heures exquises et scandaleuses. Et je sais qu'un peu partout, cet été, d'autres que moi, filles, garçons et les autres, furettes à leur tour, obstinés jusqu'à la syncope, en proie à cet appétit qui, à travers les âges, nous soustrait tous à l'enfance et nous réinvente, chaque fois, contre le monde entier. Je vous propose qu'on partage encore quelques autres témoignages qui sont dans ce recueil. Il y en a 70, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas déflorer toute l'œuvre. Mais il y en a encore 3 que j'aurais aimé partager avec vous, par exemple celui de Cathy Itak. J'ai tout juste 15 ans. J'aime une fille qui m'aime un temps, puis qui ne m'aime plus. Elle me dit « C'est un péché, les filles qui s'aiment. » Le chagrin est si fort que je veux mourir. J'essaye, je rate, je vis, je n'en parle à personne. J'ai 15 ans, presque 16. Je cherche un garçon qui voudrait bien de moi. Je veux en finir avec ma virginité. Péché pour péché, autant y aller. Je trouve un garçon disponible. On en a envie et pas envie. On veut faire comme les autres et on ne sait pas comment ils font, les autres. Alors on y va. J'ai lu quelque part qu'un verre de vin peut aider. Mais lorsqu'on se déshabille sans se regarder, ça me file la nausée. On fait des efforts, on est bienveillant. Il n'est pas violent. On a la trouille tous les deux. On se quitte très vite, maladroit. Seul, je découvre mon clitoris et la masturbation. Mais c'est encore un péché, je les cumule. Et puis je suis attirée, souffle coupé par des filles. Et puis je suis attirée, souffle coupé, par des garçons. J'entends pour la première fois l'expression « fille à PD » et je ne sais pas ce que c'est un PD. J'entends mon père qui dit « les homosexuels, faudrait les soigner ». On est en 1977. Je disparais des albums photos. Je fuis. Je me fuis. Je me sens étrangère partout, y compris dans mon propre corps. La bisexualité, je sais même pas que le mot existe. J'aimerais tellement qu'on me dise qu'il n'y a là aucun péché, aucune faute, aucune tâche, aucune tare. J'ai 15 ans et je n'ai pas encore tout envoyé valser, pas encore appris à revendiquer, me battre, m'affirmer, m'assumer, m'aimer. Le bonheur arrivera bientôt, pluriel, mais je ne le sais pas encore. Bientôt, j'écrirai moi aussi des textes pour les ados et je n'oublierai pas de leur parler de sexualité. J'ai 59 ans. Le premier livre de l'ardeur que je découvre, c'est Queen Kong d'Hélène Vignal. Je pleure d'émotion. J'aurais tellement, tellement aimé le lire lorsque j'avais 15 ans. Un nouveau texte maintenant, celui de Rita Perse. Fin des années 1980, j'ai à peine 14 ans. Je suis inscrite à la bibliothèque de la Madeleine, à Genève. Un samedi matin, je tombe nez à nez avec le premier roman d'Alexandre Jardin, « Bille en tête ». Sur la couverture, un mec mignon. Le titre happe mon cerveau de préadolescente. Je repose les « Is no good » que j'ai dans la main, je lis la quatrième de couverture. Avec ses 16 ans en bandoulière, Virgile veut désormais vivre tout haut et non plus chuchoter sa vie dans les couloirs d'une école. Virgile, c'est un peu moi en mec. Enfin, c'est ce que je m'imagine en lisant cette première phrase. Et c'est au fil des pages que je réalise que ce jeune garçon est bien plus aventurier que moi, qu'il a osé s'introduire dans un univers qui m'est encore complètement étranger, l'intimité de deux corps. En toute franchise, je ne me souviens pas de l'explicité des scènes décrites. Je ne l'ai jamais relu non plus. Pourtant, j'ai retenu qu'il s'agissait de mon premier émoi érotique. Un émoi entièrement construit à partir de mots et de mon imagination. Et puis, j'ai retenu cette grand-mère qui me rappelait étrangement la mienne. Avec du recul, je pense que ce livre avait été classé par erreur dans la section jeunesse de la Madeleine. Le bibliothécaire n'avait dû lire que la première phrase et c'est très bien comme ça. Je n'ai plus 15 ans, j'en ai 30 de plus. Je suis originaire d'un pays où les femmes doivent cacher leurs cheveux pour ne pas exciter les hommes. Mais j'ai choisi d'écrire de la littérature dite érotique. J'ai du mal à comprendre qu'en France, des inepties pareilles existent. Alors je préfère revenir à ce samedi matin des années 80 et me souvenir avec précision de ce que j'avais ressenti en lisant ce premier roman. Aucun choc ni trauma, juste la délicatesse d'un premier émoi. Allez, un petit dernier pour la route, celui-là, n'a pas de nom d'auteur ou d'autrice, il est anonyme. C'est un été chaud et lourd que je passe en grande partie enfermée dans ma chambre d'adolescente ou à traîner avec ma copine Karine qui habite deux maisons plus loin. J'écoute en boucle Cast Choice, The Cranberries et Indochine, dont je découvre la discographie et leurs titres teintés d'ambiguïté sexuelle. J'apprends que leur chanson Paradise a été écrite par Anne Scott, alors complètement inconnue pour moi à l'époque. Curieuse, je pars acheter son roman Superstar à la librairie du coin. Personne ne se soucie de ce que j'achète, j'ai toute liberté. Je dévore le livre à peine rentré et là, quelle claque. Jusqu'ici, la littérature érotique dont j'avais pu me délecter en cachette se limitait à Judy Blume et son « Pour toujours », qui, s'il était précurseur pour l'époque, restait assez gentillet. Ici, Anne Scott est sur les pas d'une dépente que je découvrirai bien plus tard. C'est cru, direct, un peu trash, ça frappe fort pour l'adolescente que je suis. Je découvre que deux femmes ensemble, ça peut aussi me chatouiller le bas-ventre, et pas qu'un peu. C'est un sentiment à la fois troublant et délicieux, enivrant, à la fois puissant et tellement doux, quelle découverte. À 15 ans, je prends conscience que je peux désirer autant une femme qu'un homme, ce qui restera une étape cruciale dans la construction de ma sexualité et de mon univers érotique. Cet été-là m'a offert la liberté vertigineuse de me découvrir et de façonner mes désirs, qui me poursuivent encore aujourd'hui. Je ne remercierai jamais assez les livres et leurs auteurs de m'avoir donné cette chance. Et vous, auditeurs, auditeresses, auditeurices de Bonjouir, quels furent vos premiers émois? Allez donc vous procurer ce recueil qui peut-être vous ramènera à de douces réminiscences. Il est publié évidemment aux éditions Thierry Magnier. Les droits du livre sont versés au planning familial. C'est donc lire et dire le désir. 70 témoignages. Et si vous avez des ados, si vous en connaissez, si vous en côtoyez autour de vous, dans votre famille, etc., offrez-leur les ouvrages de la collection L'Ardeur, toujours chez Thierry Magnier. C'est aussi une façon de les accompagner dans leur éducation sexuelle et donc de prévenir les violences sexistes et sexuelles.
Bonjour.
Sur Canal B.
Il est temps désormais de retrouver la deuxième partie de la librairie Foutraque de Benjamin Bechler avec un nouvel extrait à déguster de Mangez-moi, écrit par Agnès de Sarthe et publié au Point. On vous souhaite une bonne continuation. Oh.
Le premier service n'a pas eu lieu. Je suis épuisé. J'espère que le soir m'apportera la salle comble dont je rêve. Je redoute cependant l'affluence de la clientèle plus encore que son absence. Je ne suis pas prête. Le serai-je jamais? De 4h à 6h, je dors. La banquette achetée chez Emmaüs se révèle un excellent lit. Je dors, mais je ne dors pas. Mes paupières s'agitent comme les ailes d'un papillon. Je récapitule. Je révise tout ce qu'il faudra que je fasse. Les gestes, les mots. Vous avez réservé? Que désirez-vous boire avec ça? L'addition? Oui, je vous la porte tout de suite. Laissez-vous tenter, les desserts sont maison. Impossible. Je n'arriverai jamais à prononcer ces phrases. Heureusement, il n'y a pas plus d'amateurs le soir que le midi. Je ferme à 22h35, sans avoir à débarrasser, sans vaisselle à faire. Je m'allonge à nouveau sur la banquette. Cette nouvelle vie est éreintante. Je n'en suis pourtant qu'au premier jour, je pense aux traites. Je calcule tout ce que je vais devoir payer sans avoir rien gagné. J'ai l'impression d'être abandonné de tous, puni. À 5h du matin, un camion poubelle me réveille. J'ai donc dormi. Bonne nouvelle. Il faut que je me lève, que je prenne une douche dans mon grand évier. Ça non plus, je ne devrais pas l'écrire. Et que je me mette au travail. Aujourd'hui, c'est le vrai premier jour, l'inauguration. Mes amis trouvent la nourriture délicieuse. Ils ont apporté du champagne. Mes parents jugent mes tables étriquées et mes chaises pas assez confortables. J'ai envie de leur répondre que ce n'est pas un restaurant pour vieux, qu'ils n'y comprennent rien. Mais ils ont raison, je n'aime pas mes tables, je n'aime pas non plus mes chaises. C'est le type de l'avenue de la République qui m'en a fait cadeau. Il a eu pitié de moi. Il allait les jeter. « Elles sont toutes branlantes, » a-t-il dit, « déséquilibrées. Mais vous n'aurez qu'à demander à votre mari d'y mettre un ou deux boulons, une vis par-ci, une vis par-là. » Un boulon et une vis, moi et mon mari. Oi, comment y songer sans embarras? Je change de conversation. Je demande quand le lave-vaisselle arrivera. Bien assez tôt, bien assez tôt, m'assure le type. Cette fois, il ne ment pas. Le jour où il vient livrer le mobilier, il apporte en prime l'engin nettoyeur. C'est quoi ça? Demande-t-il d'un ton méprisant en montrant ma jolie banquette verte de chez Emmaüs, en moleskine rehaussée d'un passepoil d'or. C'est une banquette pour les dames, précisai-je afin de lui clouer le bec. Il hausse les épaules et encombre méthodiquement la salle de chez moi qui soudain me paraît étriquée. C'est inquiétant, me dis-je. Aurait-elle rapetissé? Aurions-nous grandi? C'est bien, dit-il une fois le travail accompli. C'est intime. Qu'est-ce que je vous sers? Fais-je en espérant qu'il ne voudra rien de précis. Ce que vous avez de mieux, répond-il. Je pense... Moi? Mangez-moi? Mais je ne le dis pas, car de toute façon, ça revient au même. Je lui sers une part de tarte au chocolat, poire et poivre avec un verre de rosé frais. Je le regarde manger. Je pense qu'il n'a pas menti, finalement. Il mange chez moi, sauf qu'il n'est pas à l'heure du dîner, il a donc menti. Je le regarde et je pense qu'il se nourrit de moi, car pour ce premier gâteau, pour ce dessert inaugural, j'ai mis tout ce que j'avais. J'ai pétrillé avec douceur, j'ai fait fondre avec patience, j'ai tranché en recueillant le jus si fin, incorporé à la pâte, avec le chocolat d'un noir Maasai, ma pâte brune entre mes mains, que j'abaisse et reforme, abaisse et reforme, le poivre sur les poires, car je crois en cuisine comme ailleurs au mystérieux pouvoir de l'allitération. Les grains foncés à l'extérieur, jaune pâle au-dedans, pas écrasés, pas concassés, tranchés. Mon moulin est une râpe, il fabrique de minuscules tranches d'épices. L'homme mange, et je vois qu'il est ému. J'en suis désolé. Pourquoi ? Je l'ignore. Nous sommes tous deux indignes de ce partage. Mes amis trouvent que mes tables et mes chaises sont très bien comme elles sont. Pourquoi le trottoir de la tarte aux blettes est ouvert ? Demande ma mère qui ne m'a jamais fait confiance et pense sans doute que je l'ai laissé pourrir. Parce que j'achète des brins d'aneth et de ciboulette dedans. C'est plus joli et plus léger aussi. Mon père recrache. Il n'aime pas les herbes. Il trouve que ça fait fille ou vache. Ma mère est la seule personne que je connaisse à appeler trottoir le bord des tartes. Je trouve ça mignon et je lui pardonne son offense. A-t-elle pardonné les miennes ? Le thon cru mariné au cébette est un succès que je regrette. Ça m'a coûté les yeux de la tête et c'est si facile à faire, sans âme. C'est l'océan qu'il faut remercier, pas moi. Ma vanité m'enivre. C'est décidé, j'arrête le poisson cru. That's real good. Take it.
Purpose, all love's legal.
C'était bien sûr Planning to Rock, vous l'aurez reconnu, et c'est ce morceau qui date un peu maintenant, mais qui est quand même toujours aussi bon. All Love's Legal.
Bonjour.
Sur Canal B.
Et puisqu'il s'agit de littérature érotique dans cette émission, comment ne pas annoncer le prochain salon de la littérature érotique qui aura lieu à la Bellevilloise le 19 novembre prochain, donc de 15h à 21h. Vous pouvez acheter vos billets sur place à 15€ ou en prévente à 10€. Le programme, évidemment, des rencontres avec des autrices et des auteurs, j'en cite quelques-uns, quelques-unes comme ça, un peu au pif. Eh bien, il y a Alexandra de Tadea, Lucille Bélan, Marilyn Jess, Clarissa Rivière, Pauline Verdusier, retenez ce nom, Brigitte Lahaye, Octavie Delvaux, Les Saphos, Chloé Safi, Anne Vassivière, bref, tellement, Docteur Capote aussi, Axel de Sade et j'en passe. Et puis, il y a aussi des stands, des animations avec, eh bien, par exemple, l'association Le Son du Désir qui vous propose des podcasts érotiques. Il y a Sweet Paradise sur les fantasmes à mettre en application au quotidien, voilà, une asso qui réalise vos fantasmes, bref, plein de choses. Il y a aussi des prises de parole sur différents sujets, par exemple l'esthétique érotique des années 70 et 80, éditeur et autrice, comment fonctionne ce curieux duo, l'amour, écrire à travers son expérience, parler de soi, la force des témoignages intimes, trouver les mots justes pour parler de sexe aux Français, etc., comment conseiller une bonne lecture érotique, bref, une sorte de complément absolument indispensable à tout ce que nous partageons tous les dimanches dans Bon Jouir. Donc allez vite au Salon de la littérature érotique le 19 novembre de 15h à 21h. Et puisque nous sommes toujours dans cette émission et que je vous avais demandé de retenir Pauline Verdusier, rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un ouvrage, encore un recueil de nouvelles qui s'appelle Hold Up 21. Un livre qui comprend donc 20 nouvelles illustrées et 100 photos. C'est vraiment un livre magnifique avec un travail d'édition très très beau, des photos vraiment magnifiques, splendides. On en avait parlé déjà la dernière fois. Ces nouvelles sont écrites par 20 femmes qui sont autrices, réalisatrices, poétesses, journalistes, dramaturges, comédiennes, bref. Et donc elles ont été réunies à l'occasion pour mettre à l'honneur le désir et le plaisir dans la discussion féministe. Ce sont 20 histoires de jouissance, d'expériences rares, de chemins détournés qui touchent, excitent, provoquent, choquent, émeuvent, libèrent peut-être, transforment et réparent. Une photographe a interprété leurs mots en 100 tableaux. Cette photographe, c'est Abigail Auprin. Elle a créé les tableaux en accord avec la sensibilité des autrices qui posent seules ou bien en compagnie de comédiens. C'est un voyage sensuel dans une esthétique entre David Lynch et Guy Bourdin. Les nouvelles paraîtront en livre de poche chez J'ai lu en 2024. Et puis c'est un rendez-vous annuel. Une équipe de nouvelles autrices va être réunie pour le volume 2. Faisant partie de la catégorie des beaux livres, c'est un petit investissement puisqu'il est à un peu moins de 40€. Mais je me suis dit que pour vous donner l'envie, le désir, le goût de pouvoir l'acquérir soit pour vous, soit pour l'offrir, eh bien ça pouvait être pas mal de partager ensemble une lecture d'une nouvelle. Voilà, donc je vous propose de commencer avec vous, et je n'irai évidemment pas au bout pour ne pas déflorer la fin de l'histoire, et puis aussi c'est une forme de petit teasing, de petit aperçu qui peut ainsi peut-être vous exciter et vous donner envie d'aller plus loin dans la lecture de cette nouvelle et donc dans l'achat de cet ouvrage. Cette nouvelle, c'est celle de Pauline Verdusier, dont j'ai parlé il y a pas longtemps, et qui s'intitule « Les envies de Madame ». Elle se demande comment elle va s'appeler. Est-ce que ce sera Elena, Jacqueline ou Leïla, ou bien Pierre, Jean-Marc ou Pablo ? Quel âge se donne-t-elle aujourd'hui ? 22, 35, 56 ans, peut-être 70 ? La lumière du boulevard inonde la chambre. Son ombre se découpe sur le lit défait. Assise à sa table de travail, elle se masse les reins. L'écran de son ordinateur luit devant ses yeux. Une fois n'est pas coutume, Elle doit encore se glisser dans la peau d'un narrateur fictif pour inventer des scénarios salaces en 6000 signes. Elle fixe les lignes qu'elle vient de rédiger. Bon, c'est l'histoire d'un quinquagénaire qui louche sur le décolleté de son employé de 25 ans. Un soir, celle-ci lui déballe sa vie autour d'un verre, son mec est impuissant, la frustration de ne jamais être remplie l'accable. Alors elle se jette sur la queue de son patron, sitôt passée la porte de la maison. Elle a l'impression d'avoir déjà écrit ça 100 fois, à quelques variantes près. À la place du patron, il y a eu le voisin, la belle-mère, la belle-sœur ou le beau-frère. À la place de la jeune fille, 1000 autres interdits. Le mari de la meilleure amie, le prof de lettres, le kiné ou le jardinier. Chaque semaine, elle consacre quelques heures de son emploi du temps à ce travestissement épistolaire. Tous les mois, une revue pornographique hétéro datant des années 70 publie ses nouvelles érotiques. Elle y a été embauchée un peu par hasard et ses historiettes accompagnent des photos explicites comme pour un roman photo. Vulve, pénis, coït et bouts de corps divers sont disposés sur les pages de papier glacé. Pour quelques dizaines d'euros le feuillet, son travail est de composer ses récits en changeant le style, les intrigues, les pratiques. Sa mécanique est implacable. Deux partenaires ou plus, une situation réprouvée par la morale, du sexe oral, des pénétrations et des orgasmes. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Ce boulot a payé l'apport de son appartement. Ça avait été excitant. À présent, c'est plutôt redondant. Tel un robot, elle tape ses inventions du jour. Ces personnages n'ont rien à voir avec elle. Ce sont de parfaits inconnus tirés de son générateur à fantasmes. Il y a des femmes qui soumettent leurs amants, des couples mariés qui réinventent leur sexualité, des silhouettes indistinctes qui se perdent dans des partouzes. Ses préoccupations personnelles déteignent parfois sur ses protagonistes. Quand elle cherchait un appart, elle a imaginé un scénario pas très politiquement correct avec une fille en galère de logement qui décidait de soudoyer un agent immobilier en usant de ses charmes. Lorsqu'elle s'est fait virer de son dernier job, elle a inventé un personnage sulfureux de syndicaliste. Une femme très chaude qui, de rage, s'asseyait sur le visage du responsable des ressources humaines. Après une rupture, elle a pondu l'histoire d'une nana qui retrouvait son ex toxique avec un désir de vengeance chevillé au corps. Elle l'attachait pour le fouetter et le contraindre à la lécher pendant des heures. Aujourd'hui, elle a 30 ans et elle est un peu moins créative qu'avant. Peut-être parce qu'elle n'a plus que des problèmes de riche. Elle vit en couple hétérosexuel monogame et, détail qui a son importance, elle est heureuse. Ses névroses s'apaisent dans le cocon de stabilité et de chaleur de son foyer. Elle mène une existence tranquille de scénariste et d'autrice de textes porno. C'est sa seule excentricité. Sa belle-mère n'est pas au courant de ce job alimentaire. Son grand-père vaguement, mais elle évite de mettre le sujet sur le tapis. Avec son mec, elle n'en parle pas tellement non plus. Cela ne nourrit pas de jeux sexuels entre eux, ni d'envie de libertinage. Lui est un architecte au sourire radieux et à la générosité sans faille. Un mec dont la masculinité est à l'opposé du virilisme toxique, qui assume davantage de tâches ménagères qu'elle, et avec qui elle ne s'est jamais sentie comme une servante ou un objet sexuel. Elle en est tombée folle amoureuse 10 ans plus tôt. Ils vivent ce que la presse magazine appelle une sexualité à la papa. Vanille, sous-entendu, pas très original, car conforme à l'hétéronormativité dominante. Elle déteste cette expression, vanille, autant dire fadasse ou sans goût. À son avis, leur lit conjugal est au contraire un lieu de plaisir simple, de tendresse et de sécurité. Elle a vécu par le passé des histoires plus tumultueuses qui lui ont collé un désir ardent entre les pattes. Et puis, elle a arrêté d'érotiser les figures de bad boy, trop intenses, dans leur possessivité déguisée en passion charnelle.
Au fil du temps, son désir s'est transformé. Elle en a moins qu'avant, c'est certain, mais elle aime comme jamais elle n'a aimé. Elle a toujours envie de sa peau contre la sienne, même après des années à le côtoyer. Elle le trouve beau. Sa bouche, ses yeux noirs, ses boucles, ses bras autour d'elle. Son corps se réchauffe à la pensée qu'il sera là le soir à l'accueillir dans leur appartement. Elle est au courant des rapports de domination qui existent dans le couple hétéro, mais elle n'a jamais cherché à politiser son espace domestique outre mesure. Trop prise de tête. Elle se demande quel genre de scénario érotique elle pourrait tirer de ce bonheur conjugal. Sa vie ne pourrait pas vraiment faire l'objet d'un de ses textes. Tout le monde trouverait ça assommant d'ennui. On lui demande souvent lequel des fantasmes de sa collection elle aimerait assouvir. Et elle ne sait pas répondre à cette question. C'est peut-être parce qu'elle bosse dans le cul depuis des années qu'elle ne ressent pas l'envie d'une sexualité alternative ou multiple. Dans un podcast, elle a entendu un gérant de club échangiste expliquer que la levrette du samedi soir avec sa femme suffisait à son bonheur. Elle s'est un peu reconnue dans ses propos. Ça l'émerveille que son imaginaire fantasmatique continue de fonctionner et de la sorte, sans qu'elle réalise jamais les fantasmes qu'elle décrit. En pensée, sa vie érotique n'a rien de vanille. Elle pose les mains sur son ventre. Son utérus palpite. Elle attend un enfant. Elle espère qu'il ressemblera à son homme. C'est son 4e mois de grossesse. Après les nausées vient le stade de l'éclat maternel. « Girl, you've got the glow », susurre à ses oreilles un podcast d'accompagnement prénatal cucu. « Mais c'est vrai, ça », se dit-elle. « T'es une sacrée bombasse depuis que t'as relevé la tête de ta cuvette des toilettes. » Dans le miroir de la salle de bain, elle ne se lasse pas de regarder son ventre prendre du volume. Une rondeur douce au milieu de sa minceur. Sa poitrine est quadrillée par les veines. Certaines s'entrelacent autour de ses épaules comme des plantes grimpantes. Le bronzage doré de l'été sur le décolleté adoucit un peu leur tracé. Le galbe de ses seins n'a jamais été aussi harmonieux. Avec des obus pareils, elle pourrait poser à poil pour la revue porno, il suffirait de photoshopper les veines. Les aréoles se sont élargies et assombries, et ses cheveux aux reflets dorés en caressent la pointe. Sa peau est tendue comme celle d'une pêche rebondie. Elle a arrêté de mettre du rouge sur ses lèvres et sa bouche est naturellement rose, pulpeuse comme une framboise. Elle se trouve désirable. La cambrure des reins, accentuée par l'arrondi du ventre, est presque provocante. Elle porte souvent une longue robe verte de grossesse, très moulante. Dans la rue, elle sent qu'on la désire. Les gens ne remarquent pas toujours qu'elle porte la vie, mais ça doit se sentir. La boule d'hormones ambulante qu'elle est attire l'œil. Et c'est là-dessus que je vais arrêter la lecture pour ce soir. Je vous invite vraiment très chaleureusement à aller vous procurer cet ouvrage Hold Up 21 aux éditions Anne Carrière. C'est un très beau livre avec des histoires très chaudes et qui nous donne très envie de passer nos soirées à lire de la littérature érotique et tous nos dimanches, pareil, la main dans la culotte. Bon, eh bien, il est maintenant temps de rendre l'antenne. Et oui, les meilleures choses ont une fin. On se retrouve de toute façon dimanche prochain. N'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux quelques ouvrages érotiques que vous aimeriez peut-être entendre lire dans cette émission ou quelques ouvrages qui ont pu vous causer vos premiers émois. Et oui, moi, par exemple, c'était les bandes dessinées dédicaces chez Fluide Glacial à 15 ans qui m'ont vraiment titillé le clito. Voir ces énormes paires de seins, ces mecs à poil, c'était pas possible. Bref, en tout cas, on se retrouve donc dimanche prochain à 23h. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une foutrement belle semaine sur Canal B.